Alors merci, merci de ces quelques mots de bienvenue. Merci surtout à vous d'être là ce soir, parce que vous savez, le sort d'un livre, c'est de paraître, et puis après de chercher ses lecteurs, de les trouver. Ce livre les a trouvés, mais il peut en trouver d'autres. Vous avez peut-être lu l'essai de Terry Cochrane, qui fera l'objet de notre conversation, on va l'appeler comme ça, conversation publique, parce que il y a toutes sortes d'avenues. C'est un essai très très riche. Il y a toutes sortes d'avenues qui sont explorées, convoquées, mises en argument dans cet essai. Et puis bien sûr, vous serez invité non pas à subir passivement nos propos, mais aussi à intervenir en dernière partie par vos questions. Et puis tout ça se terminera ou commencera, c'est à voir. Par le verre de l'amitié qui nous attend, à l'étage. Alors, donc, reprenons d'abord, Terry Cochrane, le titre de Samson à Mohamed Atta, et après on pourra s'arrêter au sous-titre si on le veut. Si c'est Samson, on sait qui c'est, du moins j'espère que tout le monde sait qui c'est. C'est un personnage biblique dans le livre des Juges. C'est un juif, une force de la nature, craint des Philistins qui sont les ennemis d'Israël, et un jour il est fait prisonnier, on lui crève les yeux, il est attaché à une meule, il est le bouffon de ses geôliers, et puis il choisit de mourir, de se donner la mort, mais en faisant périr la foule qui est venue se gausser de lui au même moment, la foule des Philistins, et donc pas seulement des guerriers philistins, en faisant tomber les colonnes du temple. Donc c'est un récit assez connu de la Bible. Mohamed Atta, ben, c'est l'un des terroristes à l'origine des attentats du 11 septembre, c'est un des cerveaux. Il a laissé d'ailleurs une lettre avant de commettre ces attentats, et cette lettre pour vous a une valeur documentaire très très forte, nous y reviendrons. Donc, ce qui est intéressant dans votre livre, c'est que, prenant appui sur l'événement inouï que sont les attentats du 11 septembre, vous dépassez bien évidemment l'actualité de ces attentats. Ce n'est pas ce qui vous intéresse. Votre terrain à vous, c'est la littérature, et même l'histoire contemporaine, c'est moins ce qui vous intéresse, pour vous attacher à la notion de sacrifice humain, qui vous sert de prisme en quelque sorte, pour essayer d'interroger les rapports entre le savoir et les institutions. Alors, pourquoi la notion de sacrifice humain, qu'avez-vous pensé pouvoir apprendre à travers ce prisme de notre époque, de notre temps, de nos mentalités?
Bon, comme je raconte au début dans le texte, quand il y avait l'événement du 11 septembre, il y avait cet écrasement de l'avion, évidemment, dans les tours jumelles. Et la première chose que tout le monde a fait, ils ont consulté des experts. Ils ont dit, mais de quoi s'agit-il, etc. Et tout le monde disait, bon, c'est un acte de lâcheté. Et je me suis dit, bon, de lâcheté, je ne sais pas. Ce n'est pas exactement un acte de courage, peut-être. C'est certainement pas un acte héroïque. Mais de lâcheté, je ne dirais pas. Je me suis dit, mais ce n'est pas tout à fait de lâcheté, c'est autre chose. Et par la suite, quand ils ont découvert la lettre là, dans ses bagages, les bagages de Mohamed Atta, c'est une sorte de lettre qu'ils avaient partagée. C'est-à-dire tous les terroristes avaient une copie de cette lettre. Et c'était une lettre qui racontait un peu comment ils devaient se comporter devant cet acte. Et c'était complètement dans un langage spirituel, c'était assez étrange. Ils devaient se raser le corps, ils devaient se parfumer, ils devaient vraiment se préparer pour la mort. Et en plus, et ça c'est la partie qui m'intéressait encore plus, il y avait la lecture, l'interprétation qui venait d'une lecture des textes sacrés, en particulier du Coran, mais pas simplement du Coran, aussi de toute la tradition abrahamique, c'est-à-dire de la tradition juive, la tradition chrétienne et la tradition musulmane. J'ai essayé de penser à cela. C'est quoi le lien, donc, je me suis dit, entre ce texte qui offrait une sorte de guide et le sacrifice qui était l'aboutissement de ces préparations, etc. Préparation spirituelle, en fait. Complètement condamnable, mais étrangement quelque chose qu'on ne pouvait pas prévoir. On ne pouvait pas penser à cela. On ne pouvait pas imaginer qu'on utiliserait des textes comme des inspirations, des textes sacrés, comme des inspirations pour faire du mal, disons. Alors, à partir de cela, je suis revenu à cette idée de la place de la littérature, de la place de la textualité, si on veut, dans notre monde. Et ça m'a amené à des questions plutôt sur le plan des institutions. Parce que, évidemment, il y a toujours des conflits dans les institutions, il y a les conflits. L'institution occupe une place vis-à-vis de la lecture, une place où on doit transmettre le savoir, on forme des lecteurs, on dit ce qu'on peut dire, on détermine ce qui est authentique, ce qui est autorisé, ce qui est légitime. Et il y a des lectures qui ne le sont pas, bon, sont à l'extérieur, on peut les ignorer. C'est un peu ça l'idée de l'institution littéraire. Ici, on a un exemple de quelqu'un qui a, de plusieurs personnes qui ont fondé une communauté à partir de ce qu'on appellerait, dans la perspective de l'institution, les aberrations. C'est-à-dire, ils ont formé une communauté. Et donc, j'ai commencé à réfléchir là-dessus et je me suis dit, mais il y a quelque chose qui est frappant par rapport à ce qui arrive dans des actes pareils, basés sur des lectures des textes, c'est que c'est une lecture qui relève de l'affect. C'est-à-dire qu'ils ont interprété, ils ont été interpellés par le texte, ils ont été émus, ils ont essayé se sont identifiés à certaines figures dans des textes sacrés. Et c'est vraiment du domaine de l'affect. À partir des institutions, ceux comme moi, nous qui sommes à l'intérieur de ces institutions-là, on sait très bien que la première chose qu'on écarte du savoir, c'est l'affect. C'est-à-dire, s'il y a de l'affect, ce n'est pas du savoir. Il faut être sûr que la littérature reste simplement quelque chose de... Un objet du savoir, on peut le critiquer, on peut la lire, etc. On peut soumettre nos lectures à un public qui va le juger, etc. Mais pour que ça soit légitime, il faut écarter l'affect. L'affect n'entre pas dans l'institution.
Et donc cette mainmise, parce qu'il faut parler peut-être de mainmise de la raison, elle coïncide avec la modernité. C'est une démarche éminemment moderne.
Mais si on regarde au Moyen-Âge ce qui arrivait, c'était pas tout à fait la même chose. La théologie, par exemple, au Moyen-Âge, on l'appelle plus la théologie maintenant, on l'appelle les sciences religieuses, bon, parce que c'est quelque chose qui vide encore la fête. Mais avant la modernité, au Moyen-Âge, la fête n'était pas séparée du savoir, c'est-à-dire le savoir existait, on interprétait des textes, on avait des interprètes complètement autorisés, évidemment, il fallait faire de longues études, il fallait connaître le latin, etc. Si on pense juste au christianisme. Mais il y avait aussi les lecteurs qui se laissaient emporter, c'est-à-dire des mystiques, ça faisait partie de la tradition, c'était complètement enchevêtré. Ces deux aspects faisaient partie de la même tradition. Donc, on n'avait pas écarté. En fait, toute la théorie de la lecture du Moyen-Âge était basée sur cette idée de la lecture divine, la lecture divina, qui concernait comment on se laissait toucher par les textes. C'est-à-dire, dans l'imitation de Jésus-Christ, ce texte du XIVe siècle, ce texte dit que, bon, quand on lit le texte, il faut pleurer. Donc, si on ne pleure pas, on n'a pas bien lu. Donc, il y avait cette idée. Aujourd'hui, ça serait impensable. C'est-à-dire, on n'enseigne pas comme ça. On dit tout de suite, non, il ne faut pas pleurer, il ne faut pas se laisser affecter. Il faut vraiment lire le texte, là. Il faut essayer de penser. Non, il faut réfléchir. Donc, il y a quelque chose qui est arrivé dans la modernité, qui fait partie de ce qu'on appelle, dans l'histoire littéraire, la désacralisation des textes, des textes sacrés, on arrive à un moment où on a la littérature laïque. Donc il y a quelque chose de ce moment qu'on appelle maintenant moderne, qui établit le savoir contre l'affect. Alors, ce conflit, parce qu'il y a ce conflit dans la modernité entre savoir et affect, par rapport aux textes littéraires en particulier, mais par rapport à toutes les institutions, c'est-à-dire l'institution économique, il y a le travail au noir, ce qui est le contraire de l'institution économique. Mais dans la littérature, c'est assez spécial, parce que le savoir littéraire se produit à partir de l'affect, mais après coup. C'est-à-dire, quand il y a des lectures basées sur l'affect, le savoir littéraire va essayer d'incorporer, récupérer tout cela par la suite. Ça devient quelque chose qui est transmise, peut-être, on choisit, on écrit sur des choses qui ont lieu tout de suite, on écrit là-dessus, on essaie de les ramener, on les soumet à la raison, on les soumet au savoir, on publie là-dessus, on fait des thèses, etc. Mais c'est un antagonisme entre ces deux aspects-là. Alors, le savoir est la voie de la tradition qui transmet cette tradition vers l'avenir. Et l'affect est là, elle peut être récupérée, etc.
Mais oui, Thierry Cochrane, vous opposez le savoir et l'affect, mais si on se reporte au Moyen-Âge, et puis après avec la rupture que représentera la modernité, est-ce que ce n'est pas d'abord le savoir et la foi qui étaient imbriqués au Moyen-Âge, par exemple? Puis là, il faudrait voir dans l'Antiquité comment les choses se présentaient, et qui, avec l'irruption de la modernité, ce sont deux voies parallèles condamnées à ne jamais se rencontrer, ou en tout cas à se suspecter mutuellement.
Mais dans le domaine de la religion, c'est une autre façon de le dire, c'est-à-dire quand on
mais donc
dit,
foi et affect pour vous, c'est similaire.
C'est du même côté, parce que si on peut être dans le savoir et être de la foi, sauf qu'on l'appelle plus foi, on l'appelle croyance. C'est-à-dire c'est quelque chose on soumet à la raison et on croit. Je crois parce que j'y ai pensé, j'ai réfléchi, etc. Mais la foi, par définition, c'est pas tout à fait rationnel, c'est quelque chose où on se laisse emporter. Donc, quand on entend des voix, on entend des voix de Dieu par essence, c'est ça ce qu'il fait, il parle à Dieu. Il lui parle vraiment, il dit laisse-moi le faire cette fois-ci, etc. Et il entend ses réponses. Donc, il y a une sorte de dialogue. Donc, la foi, il croyait que, ça allait arriver, mais sans se poser des questions. Ils savaient que ça allait arriver.
Une sorte de connaissance intime à opposer au savoir.
Il n'y a même pas de médiation. Oui. C'est-à-dire, la foi est quelque chose qui n'exige pas l'engagement de l'esprit. C'est vraiment quelque chose qui est là. Oui. Donc, je pense que c'est ça ce qui a été banni du savoir. La croyance, on peut l'avoir, on peut tous l'avoir, c'est tout à fait normal. La croyance est toujours l'après-coup.
C'est-à-dire, elle est passée au crible de la raison, la croyance.
Tout à fait, il faut éliminer ces choses qui n'étaient pas tout à fait objectives, qui étaient d'ordre subjectif. Il fallait les éliminer pour arriver à quelque chose de prouvable, de transmettable.
Bon, mais il y a Samson, il y a Mohamed Atta, mais il y a d'autres figures que vous convoquez dans votre livre. On pense au Socrate, par exemple, qui boit la ciguë, ou les kamikazes japonais durant la Seconde Guerre mondiale. Mais ce qui ressort, vous montrez bien ce qui, insensiblement, pourrait-on dire, mais tout de même sensiblement, distingue les uns et les autres sans les séparer, c'est aussi cette soumission à un ordre supérieur à l'ordre humain. L'affect, c'est aussi de cet ordre, sans remettre, soumettre sa volonté à une réalité qui vous dépasse, mais dont on est intimement convaincu qu'elle existe. Cette réalité étant Dieu, en l'occurrence, dans la plupart des cas.
Mais il y a une autre façon de le décrire. C'est exactement les mêmes les mêmes éléments, mais disposés autrement. C'est-à-dire, ce qu'on a à la modernité, on a éliminé la référence au vertical. C'est-à-dire, les choses qui me dépassent, les choses, la transcendance, on l'appelle des fois, mais c'est le destin, si on veut. C'est-à-dire, toutes ces questions-là qui ne sont pas maîtrisables, au moins par moi, tout ça a été écarté. C'est-à-dire, on a fini avec ça dans la modernité. On est vraiment sur le plan horizontal. On travaille pour établir, on travaille dans l'homme devient la mesure de tout, la volonté de l'homme, de l'être humain, etc. Quand on arrive, à ces lectures complètement à l'extérieur des circuits autorisés, on a l'introduction du vertical. Donc le vertical, c'est que moi je sais que il me parle. Je sais que moi je suis l'interlocuteur du divin. Et ça arrive dans tous les cas. Au Moyen Âge, bon, c'était pas séparé encore. Il y avait l'horizontal et le vertical étaient ensemble. Maintenant, c'est pas du tout de cet ordre-là. Maintenant, il y a une séparation. Le savoir appartient à l'horizontal.
Et pourtant, la modernité qui croit avoir réglé le sort du vertical, le voir faire irruption de nouveau maintenant là.
Ça arrive aussi dans d'autres domaines. C'est pas juste en littérature. C'est-à-dire, les physiciens commencent à se poser des questions parce que, évidemment, le savoir autour de la planète, on arrive, on a une sorte de maîtrise de ce qui arrive sur la planète. On pense savoir même comment guérir les effets de serre, etc. On ne le fait pas, mais on a le savoir, on pense qu'on sait comment le faire. Mais quand on commence à penser à la planète face à l'univers, il y a toute une série d'éléments qui relèvent du vertical.
Il y a un récit scientifique, bel et bien.
Mais tout à fait, on repose toutes les mêmes questions. Il y a des physiciens comme Paul Davies, il y a plusieurs, mais lui en particulier, il pose la question des choses qui ont été déjà réglées, on pensait. L'existence de Dieu, etc.
Ouais. Donc, si je vous comprends bien, il y a cette critique des institutions qui n'ont pas su, pendant toute l'histoire de la modernité, accueillir l'affect, lui ménager une place l'entreprise qui consiste à raisonner sur le monde. Mais donc, cette critique des institutions, est-ce qu'elle mène pour autant à une sortie de la modernité? Comme on est sorti de la religion, comme on a pu dire qu'on était sorti de la religion.
Mais je pense que ce qui a changé, et ça j'en ai pas encore parlé, mais ce qui a changé, c'est que avant le XXe siècle, il n'y avait pas les moyens de reproduction, c'est-à-dire il n'y avait pas des possibilités de transmettre des choses à l'extérieur des institutions. C'était très, très peu, c'est-à-dire avant l'invention des imprimantes, toutes les choses électroniques qui existent actuellement, il y avait très peu. C'est-à-dire, une personne dans la rue avait un certain accès, pouvait acheter quelques livres, mais publier et participer à cette transmission, parce que évidemment la transmission implique aussi l'éducation, ça implique qu'on va fréquenter les institutions. Les institutions choisissaient ce qui était transmis. Donc c'était très évidemment c'est toujours un peu ténu, c'est-à-dire on peut à l'extérieur, on pouvait à l'extérieur écrire des choses, publier des choses, bien sûr, mais si c'était pas repris par les institutions, c'était pas transmis vraiment vers l'avenir. Alors, ce qui a changé actuellement, c'est que il y a la transmission qui a lieu à l'extérieur des institutions sans problème. C'est-à-dire, c'est repris, ça continue à exister.
Multiplication des canaux de transmission.
Par exemple, oui, même avec des blogs, on voit ça change complètement cette hégémonie des institutions.
Oui. Mais ça vous effraie ou ça vous réjouit plutôt dans la perspective qui est la vôtre? Parce que ça donne aussi l'impression d'une sorte de formidable bazar, non?
Oui, mais c'est, pour moi, c'est les deux. Parce que je suis extrêmement content parce que ça casse quelque chose qui ne marche pas dans l'institution. Ça casse l'institution qui ne marche pas. Mais ça crée aussi la possibilité des aberrations. Parce que moi, je l'appelle, pas dans le livre, mais je l'appelle un peu la protestantisation de la culture. Parce que le début, la culture littéraire même, c'était quelque chose où on pouvait accéder à la Bible, par exemple, même si on n'était pas prêtre. Et on sait combien de traducteurs ont perdu leur vie en essayant de rendre public la Bible en Occident.
Sans intermédiaire, donc.
C'est ça, ils voulaient donner ça.
Ce texte dans les langues
vernaculaires. Oui. C'est ça, ils voulaient donner ce texte. Il y avait plein de traducteurs qui ont été tués. Mm-hmm. Justement, l'Église résistait à cela, elle ne voulait pas. Mm-hmm. Elle ne voulait pas, c'est évident pourquoi elle ne voulait pas. Parce que ça aurait donné lieu, et c'était réussi, à des aberrations au niveau de l'institution, c'est-à-dire à des gens qui avaient des lectures complètement différentes, des lectures qui n'allaient pas dans le sens légitime, disons. Alors maintenant, c'est ça ce qu'on a, si on pense dans le domaine religieux, bon, ça c'est évident, on connaît toutes les sectes imaginables autour de la Bible qui choisissent certains passages et ça devient fondateur pour leur communauté. Mais si c'est des gens qui ont un but politique, on dit, bon, ce sont des cellules. Mais c'est la même chose, c'est-à-dire ils prennent des textes, des cellules terroristes sont basées habituellement sur des textes, sur des exemples qu'ils veulent imiter.
Oui, c'est la même chose, mais tout de même, les dessins ne sont pas les mêmes, les buts ne sont pas les mêmes.
Ah, tout à fait. Mais c'est le rapport est le même vis-à-vis de l'institution. Parce que l'institution ne veut pas l'affect, justement. Ne veut pas cette idée de s'identifier, de vivre selon les lectures d'un texte.
Parce que s'agissant de cette notion de protestantisation de la culture, on pourrait vous objecter que l'esprit protestant, c'est aussi un esprit éminemment critique, qui fait de l'examen de soi une vertu. À vous entendre, on pourrait imaginer plutôt une sorte d'appropriation libre et même sauvage, et surtout individuelle. Des textes.
Mais examen de soi, oui, tout à fait. Examen de soi vis-à-vis de certains principes. C'est-à-dire, c'est déjà choisi.
Ouais.
C'est pas une question de s'examiner vis-à-vis d'un modèle universel. C'est déjà choisi comme modèle. Si on veut former une cellule terroriste, les exemples qu'on choisit sont des exemples où les gens se tuent. C'est-à-dire, c'est pas juste n'importe quoi. Les cellules, les communautés religieuses même choisissent certaines choses pour privilégier une vision. Donc c'est une économie. C'est pas une critique. C'est une économie. Et ce que je remarque, c'est plutôt que les institutions n'admettent pas cette façon d'intégrer l'affect avec le savoir.
Mais comment le pourraient-elles sans risquer de d'ébranler leur propre colonne du temple?
Mais tout à fait. Je pense que parce que ce qu'on a maintenant, on a des institutions qui sont en compétition, des institutions universitaires avec des institutions non universitaires qui enseignent aussi. On a l'émergence, c'est étrangement, le Québec, on sait très bien que les écoles privées sont en train de prendre toute la place. Donc, c'est-à-dire les institutions maintenant sont complètement coupées de cette idée de la transmission du savoir dans un sens unique. C'est-à-dire, c'est toujours des institutions l'une contre l'autre. Ce que je remarque à travers plusieurs textes, c'est que certaines questions, les questions qui concernent l'individu face à l'univers, l'individu face, face à sa propre existence, etc. Ce sont des questions qui ont été évacuées dans le savoir, qui est bizarre dans le monde littéraire, parce que la littérature naît de ça. Ça, c'est vraiment essentiel pour la littérature. Donc on a à peu près éliminé la raison d'être de la littérature.
Mais peut-être, du coup, est-ce la preuve que la littérature est par essence, doit se constituer par essence en dehors des institutions, au risque, et que dès le moment où elle intègre les institutions d'une façon ou d'une autre, c'est au risque de la récupération et d'y perdre, osons le mot, son âme.
Mais il faut réinventer le savoir littéraire, hein, parce que le savoir littéraire a été complètement réduit à cette idée d'une critique désincarnée où ce que je lis dans un texte n'a aucun impact sur moi. C'est comme un philosophe, c'est la même chose en philosophie. C'est-à-dire, on peut devenir expert d'éthique, mais être la personne le moins éthique au monde. Il n'y a aucune contradiction là. Donc il y a une séparation entre ce qu'on sait, ce qu'on étudie, ce dont on est spécialiste, et ce qu'on vit. On sait bien que Socrate n'aurait jamais la permanence aujourd'hui, c'est pas possible. Wittgenstein non plus, c'est-à-dire c'est pas recevable. Oui. Socrate n'a pas publié, donc il ne peut pas le faire.
Mais Thierry Cochran, on pourrait vous objecter que, ah mais alors Socrate à l'université, c'est inconcevable. Comme la présence de philosophes à l'université, il n'y aurait pas de philosophes à l'université.
Ça devrait être concevable. Oui. C'est ça ce que j'ai dit, parce que Socrate, finalement, il s'est donné la vie. S'est donné la vie pour des principes. Beaucoup de monde, même à l'époque, disait mais quel idiot. Oui. Pourquoi il a fait ça? Oui. Ça n'a aucun sens. Il aurait dû
le faire. Supérieur. Ouais. Ouais. Mais alors, Thierry Cochran, revenons à cette question de l'affect à réinsérer dans le savoir. On pourrait vous objecter que, en dehors de l'université, nous sommes entourés d'affects, et d'affects d'ailleurs plutôt larmoyants. On est dans les bons sentiments, à la fois dans les médias, partout, dans les journaux, dans tout ce qui fait du bruit dans la société actuelle. Et si on s'en tient uniquement à la littérature, quand on interviewe des écrivains, par exemple, c'est l'anecdote qui l'emporte, et l'anecdote qui va faire pleurer précisément. Et que du coup, l'université ou les institutions pourraient être une sorte de havre de la raison à préserver des effets pervers de l'affect.
Mais c'est ça, les institutions disent ça d'elles-mêmes. Oui, tout à fait. Elles sont là.
Et vous n'êtes pas d'accord avec...
Non, je ne suis pas d'accord. Parce que moi, les universités... qu'est-ce qu'on enseigne en littérature? On enseigne l'histoire littéraire. C'est-à-dire, on trouve une façon de rendre ça tellement plate, tellement impossible...
Mais tout de même, d'avoir des balises, savoir que, je ne sais pas moi...
Mais les départements de
l'État... Malherbe vient avant Mallarmé, c'est peut-être utile de le savoir.
Pourquoi? C'est-à-dire...
Pour ne pas confondre les deux?
Moi, je ne suis pas sûr. Parce que je pense vraiment qu'on a réussi à tuer la littérature à l'université en faisant que ça soit simplement un objet du savoir. Alors, ce n'est pas... Peut-être c'est pas terrible, peut-être la littérature ne devrait pas exister, je ne sais pas, mais on a réussi à faire ça parce qu'on dit qu'on lit les choses parce qu'on veut savoir ce qui se passe, on veut être capable de nommer les personnages, on veut être capable de décortiquer les événements dans un texte, etc. Mais on ne se laisse pas toucher par des choses. Et moi, il me semble que une des choses, il faut réinventer la littérature. La pensée littéraire, etc. À mon avis, il faut réinventer cela. Il faut intégrer l'affect. Il faut... Parce que ce qui arrive maintenant, vous qui êtes en littérature, vous le savez, les inscriptions baissent tous les ans. C'est-à-dire, la littérature est en train de disparaître de toute façon. Les études littéraires. Ça ne va pas continuer comme ça. Il faut une transformation majeure. Je ne sais pas quel genre de transformation. Mais c'est la première chose qu'on enseigne dans tous les cours d'introduction à l'université, on enseigne alors vous venez, vous allez apprendre à lire. Ils disent, mais on sait déjà lire, mais non, vous ne savez pas lire, parce que vous allez devenir de vrais lecteurs, c'est-à-dire des lecteurs conscients, des lecteurs avisés, des lecteurs qui savent ce que vous faites quand vous lisez. Vous n'allez pas vous laisser emporter. Il ne faut pas se faire prendre par un texte. Ça, c'est la première chose qu'on apprend.
À être vigilant.
Mais tout à fait, à fait. Se censurer, en fait.
Oui. Mais alors, vous avez dit il y a un instant, je ne sais pas quelle voie ça pourrait prendre, mais il faut réinventer le savoir littéraire. Est-ce qu'une possibilité ne serait pas également de renouer avec une perspective humaniste qui tout de même faisait du rapport aux livres, du rapport aux auteurs, du rapport aux écrivains, des objets permettant, et plus que des objets, des êtres vivants permettant d'apprendre à vivre. On formait les esprits, on se formait l'esprit au contact des grands auteurs. C'est en effet perdu dans l'économie actuelle du savoir à l'université, mais est-ce que la leçon humaniste n'est pas à réinventer également?
Ouais, si c'est pas une reprise du vieil humanisme, là, c'est-à-dire où on lit les grandes œuvres, etc. Moi, je pense qu'on peut trouver, on peut trouver des choses qui nous parlent dans les textes qui sont pas grands, c'est-à-dire dans des journaux même. C'est-à-dire, il faut avoir une façon de lire qui ne nous ferme pas à ces choses qui appartiennent pas nécessairement au savoir.
Mais tous les textes ne se valent pas. Un texte de journal ne peut pas équivaloir à la recherche du temps perdu, par exemple, ou Homère.
Je pense que nous avons tous nos textes préférés. C'est-à-dire, je ne sais pas si on demande ici, on va pas être d'accord par rapport à quel texte.
Non, mais il y a une hiérarchie dans les textes. On peut avoir des textes préférés, mais savoir pourquoi.
Il n'y a pas d'hiérarchie dans les textes.
Il
y a une hiérarchie dans le savoir des textes. C'est-à-dire, dans la critique, on juge, on sait aussi que ça va avec des modes. C'est-à-dire, à une certaine époque, le baroque, ça ne se lit pas. C'est des crétins qui aiment le baroque. Et maintenant, c'est plus... on adore ça, parce que c'est un peu compliqué. C'est-à-dire, ça change. Il n'y a pas de... C'est pas juste une chose qui est là. Socrate, on aime Socrate, mais on veut pas vivre comme Socrate. C'est-à-dire, tout dépend. Il y a 100 ans, on voulait vivre comme Socrate. Moi, je crois beaucoup à l'histoire, c'est-à-dire pas l'histoire qu'on raconte, mais l'histoire qui montre qu'il y a une sorte d'effervescence liée au hasard, liée à un certain désir de se transformer. Et si on essaie de rester dans le temps, contemporain, avec soi-même, avec son époque, je pense que il ne s'agit pas d'établir un autre canon. Les humanités, là, l'humanisme dans cette optique-là, je pense que c'est aussi un problème.
Il pourrait y avoir un humanisme rénové qui consisterait non pas à perpétrer le culte des anciens parce qu'ils sont anciens, mais à précisément vouloir de nouveau apprendre à vivre au contact des grands textes. Et à partir de là, en effet, peut-être chacun peut-il établir son propre palmarès à ses risques et périls. Mais ça pourrait être une voie possible à un humanisme rénové. Qu'en pensez-vous?
J'aime pas cette idée de grand texte. C'est étrange, mais moi je...
Qu'est-ce qui vous répugne dans l'idée de grand texte qu'il y ait à côté des petits textes?
Parce que grand texte où? C'est-à-dire, est-ce que ça serait un grand texte chinois? C'est-à-dire, quand on pense au monde, c'est impossible de choisir les grands textes. Si on connaît beaucoup de langues, on lit beaucoup de textes...
Ça, c'est votre perspective de littérature comparée, en effet, qui vous donne
cette... C'est impossible.
Qui vous oblige à...
Moi, je peux faire un choix personnel.
Oui.
Tout à fait personnel, mais je ne peux pas faire un choix universel. Donc, on peut travailler avec les statistiques, c'est-à-dire, on va parler à tout le monde ici, on va voir c'est quoi l'œuvre qui paraît sur la liste de la plus de personnes. Je ne sais pas.
Oui, mais en quoi cette conscience qu'il existe de la vastitude du monde et des expressions des cultures rend-il caduque l'idée de, ou discrédite-t-il l'idée de grands textes? Il pourrait y avoir des grands textes chinois. Il y a des grands textes chinois, en effet. Il s'agit de les connaître.
Ben, ça dépend de qui. Ça dépend de qui les choisit. C'est-à-dire, c'est un sinologue les choisit. Quelqu'un formé pendant la guerre froide. C'est pas les mêmes. C'est pas les mêmes textes. Hein. C'est-à-dire, je crois qu'il y a des grands textes pour moi. Mais je crois qu'il y a des grands textes pour vous, pour n'importe qui. Mais les grands textes, non, je ne crois pas.
Comme notion en tant que texte.
Comme notion, non, ça, pour moi, ça ne marche pas.
Oui. Vous avez dit à un instant, je crois à l'histoire. Et en effet, il y avait une phrase, vous écrivez à un moment donné, le passé est toujours en train de se réinscrire dans le présent. Ça, c'est, quelles sont les conditions, à vos yeux, d'une réinscription féconde qui ne soit pas statique, précisément, une redite du passé, et presque sereine, oserait-on dire, du passé dans le présent?
Ben, dans la perspective traditionnelle du savoir littéraire à l'université, on peut dire que cette phrase résonne très bien. C'est-à-dire, on réinscrit le passé, c'est ça ce qu'on fait. C'est la vision classique de l'interprétation. Qui vient de l'interprétation sacrée. On fait ça, on rallonge un petit peu la tradition. Moi, c'est plutôt que tout ce qu'on trouve par hasard, ça risque à la rencontre avec moi ou avec quelqu'un d'autre, ça risque de se réinscrire. Donc c'est pas dans une lignée. Dans une filiation déjà faite. C'est dans une filiation toujours en train de se faire. Je pense que c'est ça, c'est une autre vision de l'histoire, c'est une autre vision aussi de la tradition. C'est une tradition qui est très liée à comment on aborde ce qu'on trouve. Et c'est pas aller à la recherche de quelque chose qui serait légitime, valable dans une tradition quelconque. C'est pas ça. C'est plutôt, je tombe sur quelque chose, ça me parle, ou ça ne me parle pas, si ça ne me parle pas, bon, je le jette à la poubelle, si ça me parle, je le réinscris. Ça fait partie, ça devrait être ça. C'est-à-dire, c'est la question des affects encore.
Là. Ouais. C'est-à-dire, vous le faites vôtre, vous l'ingurgitez, si on peut employer ce mot. Et parce que vous employez la première personne dans le livre, il y a tout à partir d'un certain moment, il y a un emploi du je. On a bien compris que ce n'était pas je Terry Cochran, mais une sorte de conscience de soi là qui est à l'œuvre, qui est d'ailleurs un résultat de l'humanité. Alors, est-ce que c'est du même ordre, c'est-à-dire ce je en présence de l'histoire, en présence de ses manifestations, et appelé à réinventer chaque fois à la fois ce je et aussi l'histoire?
Oui, mais c'est un grand problème. C'est un grand problème même dans l'écriture de ce texte. Je suis arrivé à un point où je voulais parler de la première personne qui était moi, mais qui n'était pas moi. C'est-à-dire, c'est vraiment c'est la situation de la première personne au moment actuel. Donc, à l'heure actuelle. Donc, moi, je l'ai, dans le texte, je l'ai mis en italique. Donc c'est moi, mais c'est pas moi. Je pense que nous sommes tous des jeux comme ça. Et même si on fait semblant de faire partie de l'université, de faire partie du savoir légitime, on fait ça. On fait ça de toute façon. On est le résultat d'un parcours complètement. Je ne sais pas, involontaire, disons. C'est pas tout à fait volontaire.
Aléatoire,
involontaire, c'est quelque chose, c'est pas quelque chose qui va dans le sens de la version officielle de l'institution. Je pense qu'on est tous des imposteurs au niveau de l'institution littéraire. Je crois que
en puissance, des imposteurs en puissance, parce qu'on se trouvera aussi beaucoup de gens pour aimer les balises, aimer les balises offertes par l'institution qui leur paraissent rassurantes également.
Oui, d'accord, mais ils ont. Si vous parlez à quelqu'un qui a fait une thèse de doctorat, ils vont toutes les personnes que je connais va raconter une histoire de comment ils ont trouvé un texte qui était central dans leur thèse par hasard. Ils l'ont vu dans une librairie.
Ah oui. Oui, parce que donc il y a un récit qui est construit sur sa propre expérience intellectuelle.
C'est toujours ça. C'est toujours. Moi, j'ai mon récit comme ça.
Comme une mise en abîme de la littérature.
C'est que on peut pas. Si on veut devenir spécialiste de quelque chose, on dit oui, il faut lire ça et ça et ça. Mais ça dépend à qui on parle, ce qu'il faut lire, parce que on trouve pas une liste objective quelque part. Et ça dépend aussi de ce qu'on trouve par hasard n'importe où. Donc moi, je trouve que c'est quelque chose qui a à voir avec la prolifération des renseignements, des textes, des possibilités qui sont là pour n'importe qui, même pour quelqu'un qui n'a jamais fini le cégep. C'est-à-dire, il est là. Toutes ces choses sont là.
Mais alors, et donc c'est une occasion à saisir, si je vous entends bien.
Mais c'est une.
Ou qui le veut.
C'est pas une question de vouloir. Je pense que c'est ça notre situation. Et c'est ça ce que j'ai compris un peu des gens de Mohamed Atta, par exemple. Il est l'exemple maléfique de tout cela. C'est-à-dire, il y a des aberrations. On est tous des aberrations quelque part. Mais il a pensé qu'il pouvait simplement lire le Coran sans une formation. Il a fait. Il y a certains passages qui lui ont parlé. Et il a fait ce qu'il voulait faire, ce qu'il a été pensé qu'il avait été appelé à faire.
Ouais. Vous dites, c'est ça notre situation, notre condition actuelle, la condition. Je ne sais pas s'il faut l'appeler postmoderne parce que le mot a été tellement galvaudé, mais c'est ce foisonnement de possibilités, cette liberté d'interprétation inouïe qui s'offre à nous maintenant dans tous les domaines et qui, on peut l'imaginer, est également source d'angoisse, non ? Encore une fois, parce que les certitudes de la foi religieuse ou autre ont tout de même le mérite d'être rassurantes. Et que, par exemple, en pratique à l'université, pour prendre cette institution, cette réintroduction de l'affect, ou enfin cette sorte de révolution des esprits à laquelle vous en appelez, est-ce qu'elle serait accueillie favorablement par les étudiants qui, au contraire, aimeraient bien, sont à l'université pour apprendre deux ou trois choses et veulent les apprendre bel et bien?
Non, les étudiants, en général, voudraient se défaire de l'affect. Ils viennent pour ça. Ils reconnaissent que l'institution est là pour ça. On écrase l'affect à l'université. C'est ça ce qu'on veut faire. Et je pense que c'est ça aussi c'est quelque chose de tellement anachronique de l'université. C'est quelque chose qui était peut-être important au moment quand le savoir commence à se détacher d'un corpus biblique, des textes sacrés, c'était vraiment très important. On voulait arrêter toute cette superstition, toutes ces choses de cet ordre-là, et c'est établir quelque chose de plus certain, de plus raisonnable. L'organisation du savoir dans la modernité l'a très bien fait. Mais maintenant, on n'est plus là.
Oui. Croyez-vous que, parce que s'agissant des textes sacrés, il y avait tout de même cet enjeu formidable de la foi, de Dieu, de l'existence de Dieu, de son dessein, de la voie qu'il traçait à l'humanité, de l'âme à sauver. Croyez-vous, alors c'est des enjeux considérables, croyez-vous que du côté profane, la littérature telle qu'elle est aujourd'hui puisse être l'objet d'enjeux aussi grands, aussi graves?
Mais je pense que ça l'est. Oui, je pense que ça l'est complètement.
Et sous quelle forme?
Mais sous toutes les formes. Mais moi, je trouve, par exemple, il y a juste un exemple. Il y a un moine, c'est vraiment un moine américain qui est mort en 68, Merton, il s'appelle. Il enseignait Faulkner comme la quête de Dieu. C'est-à-dire, c'est complètement bizarre parce que le grand ours dans l'œuvre de Faulkner, on ne pense pas que c'est la quête de Dieu, mais l'ours était Dieu pour lui. Donc, il enseignait des choses de cet ordre-là. Alors, moi, je ne l'aurais jamais vu. Je n'ai jamais pensé que cet ours représentait Dieu. On trouvait ses traces, ses empreintes, etc. Mais on ne trouvait pas Dieu, juste les traces. Parce que le grand ours était parti. Moi, je pense que tous les textes ont quelque chose pour quelqu'un. Je ne vois pas de... Il n'y a jamais un problème par rapport à cela. Oui. Les textes disent des choses, on ne peut pas prévoir. Les auteurs ne savent pas ce qu'ils ont écrit non plus. On ne peut jamais savoir.
Oui. Et puis dans quelques instants, on pourra se tourner peut-être vers le public qui voudra intervenir. Votre réflexion, bien sûr, elle s'appuie, elle a des jalons historiques. Hein, Ignace de Loyola, Samson, bon, on a dit. Mais il y a un horizon... On va l'appeler divin, Dieu, le mot Dieu. Or, vous parlez de l'affect, vous parlez de la foi, vous parlez des croyances. Est-ce que l'horizon de Dieu est une donnée concevable pour vous dans la réflexion à mener maintenant? Ou ce mot appartient-il à des catégories, de toute façon, qui ne sont plus rendues caduques par notre condition présente?
Oui. Pour moi, je ne veux pas offenser qui que ce soit, mais pour moi, Dieu est une métaphore. C'est vraiment une métaphore pour quelque chose qui me dépasse. C'est quelque chose de transcendant.
Que vous conservez, cette métaphore. Ouais.
Je crois qu'il y a des destins dans le monde. Je crois qu'il y a des choses qui nous arrivent, qu'on ne peut pas prévoir, qu'on ne peut pas contrôler. Quand quelque chose arrive, on réécrit tout ce qu'on a vécu. Je crois que ça... Je crois que c'est comme ça. C'est pas du tout quelque chose d'étrange. Je pense que ça a été refoulé du savoir, dans le savoir, par le savoir. Mais je pense que ça a toujours été. Je pense qu'on fait ça. Ça, c'est notre façon de réfléchir, même, et sentir nos réflexions. Donc Dieu, c'est... Je peux pas... Je ne vois pas le bonhomme avec une barbe là, derrière les nuages, mais je pense que c'est vraiment quelque chose qui est là, qui se manifeste à travers nos contacts avec le résidu, c'est-à-dire les livres, ça peut être les films, ça peut être toutes les choses qui nous entourent. Donc moi, je crois profondément que le vertical, c'est ça que j'appelle le vertical, s'impose de plus en plus maintenant. Et c'est ça un peu la preuve aussi de le fait qu'il y a des gens qui entendent des voix, qui entendent des voix, qui se sont interpellés par des textes, des textes aussi, c'est métaphorique, par des créations.
Et on pourrait dire des textes vidés de leur métaphore et pris au pied de la lettre aussi. C'est ça le danger de ceux qui s'approprient sauvagement les textes sacrés.
Mais je pense que ça c'est un danger, sûrement. Mais je crois aussi que c'est un danger qui est complètement normal. C'est-à-dire la seule façon de maîtriser ces dangers-là, c'est d'instaurer une institution très forte avec des punitions. Et je pense que c'est la seule façon.
Évidemment, ce n'est pas ce que vous souhaitez.
Non, pas vraiment.
Alors écoutez, ceux qui ont lu le livre de Thierry Cochran se souviendront peut-être de ce passage. J'aimerais quand même qu'on se laisse provisoirement sur le texte. C'est parce que ce qui est intéressant aussi dans cette réflexion, c'est la ligne de crête sur laquelle nous sommes appelés à évoluer pour tenter justement de faire bouger un peu les lignes et les marques habituelles du savoir. Et vous avez à un moment donné cette phrase, vous parlez de « c'est la sentence de l'espèce humaine ». Si je suis exemplaire en tant qu'humain, c'est parce que je suis comme tous les autres, le penseur, qu'il soit scientifique, humaniste, escroc, ou citoyen banal, est un inventeur de scénarios, de comme-si, de peut-être, de je crois, ou j'aimerais que. Alors, Voilà, moi j'y ai vu un éloge du récit aussi.
Merci.
Merci Terry Cochran d'avoir écrit ce livre. Merci de vous être prêté à l'échange. Merci à vous d'avoir été là. Merci, c'est la litanie des merci, mais ils sont sincères, à la librairie Gallimard qui nous accueille si généreusement dans ces lieux. Et bien sûr, ça ne fait que commencer puisque à l'instant, nous montons à l'étage, il y a du vin et puis il y a aussi des livres, il y a les exemplaires de Terry Cochran. Vous pouvez, si vous voulez, faire signer le vôtre si vous voulez ou si ce n'est déjà fait. Et puis, je termine peut-être en disant que vous allez publier également cet automne un autre ouvrage, Plaidoyer pour une littérature comparée. On a parlé tout à l'heure des bienfaits de la littérature, des perspectives vastes qu'ouvre la littérature comparée. Alors, Plaidoyer pour la littérature comparée chez Nota Bene, aux éditions Nota Bene. Alors, nous vous lirons très certainement. Merci à tous. À l'étage, on y va. Merci. Thank you.